Votre coach chez vous, une chronique proposée par Christine Huchette.
Christine Huchette, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Alors aujourd'hui, nous allons commencer un cycle de 4 émissions où il sera question d'éducation et par conséquent de parents et d'enfants. Un sujet ô combien délicat. Alors ceux qui n'ont pas d'enfants ont en tout cas des parents. Donc ils savent ce que cela recouvre, même s'ils n'ont pas forcément expérimenté les deux côtés, les deux faces de la problématique. La question de l'éducation est une question qui a été développée depuis... est-ce que je dois dire la nuit des temps ?
Je ne sais pas s'il faut dire la nuit des temps, mais effectivement, ça remonte déjà au début du siècle dernier. Donc oui. C'est très très vieux.
Et il me semble qu'il y a un certain nombre de philosophes grecs qui parlaient déjà de l'éducation, du comportement des enfants vis-à-vis de leurs parents, disant que les enfants étaient de plus en plus indisciplinés, irrespectueux.
Ça, c'est tout à fait juste. Et il y a certains proviseurs qui nous le rappellent régulièrement. Enfin, peut-être, quelquefois, avez-vous entendu cela dans des réunions de parents, effectivement.
Alors, il se trouve que moi, j'ai des parents enseignants en plus. Donc, j'ai été bercé par ce genre de discours, oui.
Je comprends.
Toujours est-il que vous faisiez référence au début du XXe siècle. Parce qu'effectivement, il y a eu une première école de parents de créer en 1929, c'est ça précisément ?
Voilà, c'est donc Marguerite Vérine Lebrun qui a fondé cette école des parents en 1929. Et donc, moi, je m'y étais intéressée parce que dans mon travail de coach, je m'étais posé la question, faut-il coacher les parents ? Et donc, j'avais découvert cette école de parents et tout ce qu'elle peut apporter. Et je m'étais donc aussi posé la question, qu'est-ce qui faisait que dès 1929, il était nécessaire de créer ce genre d'école ?
Et quelles étaient les motivations, justement ?
Eh bien, je pense qu'avec l'évolution, enfin, c'est tout à fait personnel hein, comme réaction, mais bien sûr avec l'évolution de la femme, de son rôle au sein de la famille, au sein de la société, je pense qu'elle se posait elle-même des questions au sein de son rôle de mère. Et peut-être on a commencé à cette époque-là à se poser des questions sur comment élever les enfants et comment les élever bien.
Comment les choses ont-elles évolué au fil du temps jusqu'à aujourd'hui pratiquement ?
Eh bien, si vous regardez sur le site de l'école des parents, que ce soit le site Île-de-France ou que ce soit le site Haute-Savoie, puisqu'il y a des écoles de parents un peu partout en France, on voit avec le fil du temps les différentes questions se poser. Donc déjà, se poser des questions par rapport à l'éducation. Ensuite, se poser des questions par rapport au relationnel entre les parents et les enfants. Pour ensuite aborder des questions comme la drogue ou des questions comme le harcèlement à l'école. Ça, c'est le thème le plus récent que j'ai découvert et sur lequel j'ai réfléchi et travaillé.
Quelqu'un parlait du métier d'être parent, un métier bien difficile.
Tout à fait.
Il faut dire que dans les années 50-60 sont apparues toute une série d'approches par rapport à l'éducation. Un des fers de lance, en tout cas en France, ça a été Françoise Dolto. Et à la fois, elle a ouvert les yeux sur les enfants et en même temps, peut-être a un peu culpabilisé les parents.
Eh bien, effectivement, vous reprenez ce que je pense. Dans un premier temps, j'ai toujours pensé qu'elle avait fait quelque chose de très, très important et qu'elle avait permis de modifier nos modes de vie et nos modes d'éducation. Et donc, elle avait contribué à faire en sorte que ces familles très strictes, très autoritaires, où l'enfant n'avait aucune place et dans laquelle les enfants étaient plutôt niés, Dolto s'est intéressée à ces familles-là, à ces enfants-là, et elle a fait en sorte que l'on modifie nos modes de relation parents-enfants. Et pour cela, je trouve qu'elle a fait un excellent travail, bien entendu. Par contre, c'est toujours un petit peu l'effet balancier. Donc, nous sommes partis d'un effet très, très strict et pour arriver aujourd'hui, peut-être, à d'autres effets, c'est-à-dire à force de se poser la question « est-ce que je fais bien ? Quelles conséquences cela aura sur le comportement de mon enfant ?» Je pense que les parents ont pu parfois culpabiliser et ne pas être suffisamment à l'écoute de leurs propres sentiments, à l'écoute de ce qu'ils pensent être bien pour leurs enfants, mais plutôt avoir le nez dans les bouquins, dans les références, pour aller chercher des réponses à ce qu'ils auraient peut-être pu trouver en eux.
Dans quel domaine cette culpabilité s'est-elle exercée, si je puis dire, par rapport à quels éléments d'éducation ?
Je pense que c'est dès la petite enfance, hein, par rapport à un enfant qui pleure, par rapport à un enfant qui ne pleure pas, justement, ou par rapport à l'établissement des limites. Moi, je pense que peut-être le fait de proposer d'être plus à l'écoute de l'enfant a peut-être été lié au fait que nous l'avons trop écouté et que, de ce fait, il est devenu l'enfant roi, l'enfant de toutes nos préoccupations. Donc, d'un passage où l'enfant n'existait à peine au sein de familles nombreuses dans lesquelles il était interdit de parler à table, par exemple, il est devenu l'enfant qui prend toutes les minutes de la conversation d'un repas ou d'une soirée.
Est-ce que finalement le parent n'est pas toujours face à des responsabilités qui le dépassent ?
Effectivement, c'est très compliqué d'être parent, puisqu'en fait, pour bien éduquer, il faudrait prendre du recul, il faudrait être raisonnable en quelque sorte, par rapport à la raison, être capable d'être dans l'analyse de ce qui est bien et de ce qui est moins bien. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on voit toujours mieux ce qui se passe chez les autres et qu'on a
bien
toujours
sûr.
Plus d'idées pour nos voisins. Parce qu'en tant que parents, nous sommes pris dans l'affection, dans le sentiment, dans les émotions. Et je veux dire, ce lien d'amour est très très fort entre un parent et un enfant. Et donc, nous voulons le meilleur pour nos enfants et nous nous sentons très très impliqués et très très responsables, puisque quelque part, nous lui avons donné la vie, donc nous nous sentons responsables de cette vie que l'on a donnée et on voudrait qu'elle soit la plus parfaite possible. Et malgré tout, cela n'est pas la réalité.
Nous avons commencé en parlant d'école de parents. Le problème, c'est que, si vous me permettez une autre expression un petit peu triviale, c'est un apprentissage qui se fait sur le tas, en fait. Est-ce qu'on est parent au fur et à mesure qu'on le devient ?
Tout à fait. Et d'ailleurs aussi, peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué d'être parent qu'hier ou qu'avant-hier, dans la mesure où les futures mamans ou les jeunes mamans sont plus isolées. Alors isolées par rapport parfois à la géographie, puisque nous pouvons être très très loin de nos mamans et de nos grands-mères, et nous n'avons pas cet accompagnement qu'elles ont pu avoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transmission de savoir, de comportement, on n'est plus rassuré comme on pouvait l'être avant. Et c'est pour ça qu'on va aller rechercher des informations dans les associations, dans les hôpitaux, dans des écoles, et où on fera aussi peut-être référence à d'autres mamans qui ont le même âge et qui ont aussi peu d'expérience que nous-mêmes. Donc il est important aujourd'hui de retrouver peut-être de la sérénité et de se dire que nous avons du bon sens et qu'il faut peut-être aussi écouter nos propres émotions et notre propre ressenti par rapport à notre bébé.
Oui, et puis agir de façon la plus posée possible, ce qui n'est pas évident quand on est confronté justement à des situations que l'on découvre.
Voilà, et que des parents ou des grands-parents auraient pu nous donner ou nous informer ou nous rassurer.
Oui, nous sécuriser par rapport à ces situations.
Voilà, donc je vous ai parlé d'isolement géographique, mais ça peut être aussi un isolement de fait que les parents travaillent tard et les grands-parents parfois sont jeunes et travaillent également. Donc il y a beaucoup moins de disponibilité. De toute façon, on manque sérieusement de disponibilité. Et dans l'éducation en général de nos enfants ou de nos relations avec notre famille.
Puisque vous parlez de la situation actuelle, est-ce qu'il y a des éléments très spécifiques qui correspondent à la génération Y dont nous avons parlé récemment ?
Les éléments spécifiques que je retiendrai par rapport à la génération Y sont probablement les éléments que j'avais donnés concernant le côté très petite taille de la famille. Il est bien plus compliqué de se séparer de son enfant lorsqu'il grandit, lorsqu'il devient adolescent, lorsqu'il devient en âge de quitter la famille. C'est plus compliqué quand il est seul ou quand il n'a qu'un frère ou une sœur qui va rester au foyer que lorsqu'on est dans une famille, comme ça a pu l'être juste après la guerre, des familles où il y avait jusqu'à 10, 12 enfants. Une famille où il y a 10 enfants, quand l'aîné s'en va, il a 20 ans, mais il y a encore 5-6 enfants en bas âge dont il faut s'occuper et qui nous occupent. Et donc, le départ de l'aîné ne va pas poser autant de problèmes et ne va pas nous renvoyer à notre propre solitude. Aujourd'hui, avec la génération Y, donc cette génération, on a dit que la fratrie quittait la famille, que la fratrie, c'était les copains, les amis. Et donc, très vite, les parents se retrouvent seuls et l'objet de toute leur considération, parce que quand l'enfant est petit, jusqu'à l'âge d'une dizaine d'années, l'enfant est tout pour nous, mais nous sommes tout pour lui. Cet état de grâce disparaît très vite et n'est compensé par rien d'autre en termes d'enfant, si je peux dire. Et c'est tout à fait cette période qui est très compliquée.
Donc quelque part, de la part du parent, chez le parent, il y a un sentiment d'être abandonné.
Ben, je pense que dans les cas les plus compliqués, ça doit bien être ce ressenti-là qui existe et peut-être à ce moment-là, une envie de ne pas être abandonné, de ne pas être seul et justement sous prétexte d'être là pour lui, toujours, tout le temps, quel que soit son âge, et peut-être là pour compenser cette perception d'abandon.
Parce que la plupart du temps, on parle de ce sentiment chez les enfants qui ont l'impression justement d'avoir été quelque peu laissés de côté, voire abandonnés par leurs parents.
Oui, mais je pense que c'est réciproque. Avant de parler justement de cette période où l'enfant va quitter la maison, il y a toute cette période durant laquelle il est dans la maison et cette période où on va, on parlait justement peut-être de culpabilité, mais où on se sent bien responsable de ce qui va lui arriver, quitte à prendre toute la responsabilité sur nous. Alors qu'en fait, il faut aussi lui laisser sa part de responsabilité dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il vit. Et donc, c'est ça qui est très important. Je pense que la réussite, si réussite il peut y avoir, parce que c'est assez compliqué.
C'est relatif, oui.
Voilà, c'est-à-dire, c'est vraiment de rendre à chacun sa part de responsabilité, sa part de liberté, sa part de prise en charge de sa propre vie. Alors, bien sûr, quand l'enfant est petit, ça commence par 100% de responsabilité du côté des parents, mais petit à petit, plus l'enfant grandit, il faut faire une part jusqu'à laisser, quand l'enfant est adulte, les 100% pour lui. Et nous, on a fait notre travail, donc on continue à, bien sûr, à les aimer. Et je pense que les enfants aiment leurs parents, mais il faut tendre vers ce respect de la vie et de la liberté chez les uns et chez les autres.
C'est donc un rééquilibrage permanent.
Exactement. Tout à fait.
Eh bien Christine, nous allons continuer à réfléchir à toutes ces notions-là, bien délicatement. Hein. On n'est pas là pour apporter des solutions toutes faites, je crois, dans ce domaine en particulier.
Non, il n'y a pas de solution toute faite. Il peut y avoir des réflexions et puis des prises de conscience. Et puis justement, on aime parler de nos enfants, donc on aime se demander comment ça s'est passé pour eux et qu'est-ce qu'on a fait pour eux.
Merci Christine et à très bientôt alors.
Merci beaucoup.
C'était Votre coach chez vous, une chronique proposée par Christine Huchette.